chers auditeurs, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Catherine Rapp et Michel Specht, deux intervenants de l'activité Parcours vers l'emploi au foyer de Grenelle. Bonjour Catherine, bonjour Michel.
Bonjour, bonjour Alain.
Tout d'abord, puis-je vous demander votre CV en quelques mots, Catherine ?
Ah déjà, d'entrée de jeu.
Comme ça.
C'est-à-dire que moi, je suis arrivée au foyer de Grenelle, qui est une fraternité de la mission populaire. Donc, vous avez déjà pu avoir une émission à ce sujet il y a quelques temps. Et donc, dans cette fraternité de la mission populaire, je me suis reconvertie au métier de conseillère en insertion professionnelle. D'accord. Puisque je venais d'un métier beaucoup plus technique lié à la comptabilité.
Très sérieux.
Très sérieux.
Monsieur, oui.
Vous croyez que ce n'est pas sérieux, l'accompagnement à la recherche emploi ?
Et Michel ?
Moi, je suis bénévole dans un parcours vers l'emploi. J'ai, à la fin de ma carrière professionnelle que j'ai faite dans la banque, je me suis posé la question de savoir comment j'allais occuper mes disponibilités de temps. Et j'ai choisi de faire de l'accompagnement individuel, du coaching. Donc, et lorsque j'ai cherché un lieu où exercer cette activité, j'ai fait mon marché, si je puis dire, au Palais Royal, au moment de protester en fait. Et j'ai sélectionné parmi les stands qui exposaient ce jour-là, le foyer de Grenelle où j'ai contacté Catherine. Et voilà, donc j'interviens comme bénévole depuis 18 mois au foyer.
Après une étude de marché très pointue.
Très pointue, oui, ça c'est sûr.
Catherine Rapp, quelle est l'origine de Parcours vers l'emploi ?
Parcours vers l'emploi a été créé au foyer de Grenelle, donc par Jean-Pierre Molina, le pasteur qui a œuvré à ce moment-là, en 1994 à peu près. Et puisque le foyer de Grenelle, la fraternité de la mission populaire, c'est toujours lié à l'aide aux plus démunis, aux gens en difficulté. Et le chômage ayant monté sévèrement, ça fait partie de
ces missions.
De ces missions. Voilà. Et du coup, le foyer étant aussi un lieu d'accueil inconditionnel, ça nous permet de recevoir un public, un éventail de publics très large, de l'immigré, réfugié, la personne en recherche d'emploi tout simple ou cadre en perte de repères.
D'accord. Et quel type de public dans ce cadre-là rencontrez-vous ?
Justement, on a un panel très large, puisque le foyer accueille énormément de migrants, de personnes qui viennent pour les cours de français, qui ont des problèmes de logement aussi. Donc, ils peuvent aussi avoir besoin de CV, de lettres de motivation, de préparation aux entretiens d'embauche, mais également des gens un peu en perte de vitesse ou qui ont déjà essayé plein de choses dans la recherche d'emploi. Et ils sont revenus de Pôle emploi, ils sont un peu perdus. Et donc, on peut accompagner des cadres qui sont depuis un an, deux ans, ou jusqu'à un jour en recherche d'emploi. Parce que ça, oui. On n'a pas de...
Donc
on ouvre à tout le monde.
Vous ne vous intéressez pas qu'aux compétences ?
Non, on s'intéresse à la personne.
Oui.
Et à la revalorisation de la personne, à la reprise de confiance en elle. Parce que c'est vraiment un point commun pour tout notre public, c'est avoir confiance en soi pour attaquer... attaquer, oui, c'est bien le mot qui convient, le marché de l'emploi.
Mais vous avez des limites.
Nous avons des limites. Qui n'a pas de limites ?
Certaines personnes que vous recevez n'arrivent pas à un emploi.
C'est-à-dire que notre public, il vient avec ses propres difficultés. Certaines, oui. On peut les gommer, on peut leur permettre de reprendre pied, d'avancer. D'autres sont les limites de personnes en grande souffrance. Et donc, on essaie malgré tout de rester à leur côté. Donc, c'est toujours très difficile de dire si c'est une limite, un échec, ou si on a quand même apporté quelque chose. C'est toujours très difficile d'évaluer notre rapport.
Comment se constitue votre équipe, Catherine ?
Notre équipe est composée de 10 à 12 personnes qui ont été recrutées, donc ce sont des bénévoles, effectivement, jeunes retraités pour la plupart, qui ont des compétences développées dans le monde de l'industrie ou du service, et qui ont surtout un grand talent d'écoute et d'accompagnement des personnes, puisque à chaque fois qu'on reçoit des personnes, c'est pour être à leur demande. Hein. Ce n'est pas nous qui imposons quoi que ce soit aux personnes qu'on reçoit, mais c'est vraiment se mettre à leur écoute pour leur apporter un moyen de se mettre en route. Donc c'est l'importance de cette diversité, excusez-moi de reprendre, diversité de l'équipe permet d'avoir des approches aussi diversifiées, différentes par rapport à notre public. Et je suis la seule salariée envoyée par la mission populaire pour développer cette activité au foyer de Grenelle.
Et c'est cette équipe qui est constituée de profils assez, assez différents.
Tout à fait.
Encadré, enfin supervisé par une superviseuse.
Une psychiatre qui intervient une fois tous les deux mois à peu près. On a des réunions avec elle, ce qui nous permet justement de poser nos limites et nos difficultés pour avancer au mieux dans nos accompagnements. Et il y a une petite spécificité aussi dans notre équipe qui n'est pas visible sur le terrain du foyer de Grenelle. C'est tout un réseau d'hommes et de femmes en entreprise qu'on appelle les collègues d'accueil, oui, et vers qui on peut adresser des personnes avec qui on a déjà fait tout un travail d'accompagnement, qui sont prêts à aller vers l'entreprise et qui ont peut-être des difficultés de positionnement, de préparation, des entretiens de manière très spécifique avec des gens du même métier. Donc quelqu'un qui va être financier, on va l'adresser à un expert, un directeur administratif financier d'une entreprise, pour qu'il puisse voir si vraiment il se positionne avec les bons mots et avec le talent qu'il faut avoir dans ces moments-là.
Ça leur permet de rencontrer des profils
proches de
ce qu'ils recherchent, dans des cadres...
Dans l'entreprise parce que les rendez-vous ont lieu au sein de l'entreprise.
C'est la grande... grand avantage. Michel Spech, pouvez-vous nous décrire les différentes prestations offertes par Parcours vers l'emploi ?
Pour décrire ces différentes prestations, j'ai envie de rappeler en introduction la devise de Parcours vers l'emploi qui est « une équipe à vos côtés ». Une équipe à vos côtés, ça veut dire que nous sommes un certain nombre de personnes, comme l'a développé Catherine, et chaque personne a un rôle ou plusieurs rôles qui lui sont propres. Donc, un peu comme dans une équipe de sport, il y a des avants, il y a des arrières, il y a des gens qui jouent au milieu, qui jouent trois quarts, qui jouent en première ligne, et on verra ce que ça signifie. À vos côtés, ça veut dire que cette équipe, elle chemine, elle avance avec les chercheurs d'emploi. Elle n'est pas devant, elle n'est pas derrière, elle est à côté, elle est à leur niveau, elle se met à leur niveau pour avancer. Alors ces accompagnements, comment peut-on les définir de manière générique ? J'ai envie de dire que c'est d'abord une rencontre. C'est une rencontre entre donc les chercheurs d'emploi, celui qui cherche un appui, une aide, un soutien, et des conseillers de Parcours vers l'emploi. C'est aussi une occasion de développement personnel et professionnel. C'est une occasion de réfléchir à ses compétences, de réfléchir à ses motivations, de réfléchir à ses envies, de mieux les identifier et de mieux les mettre en musique, si je puis dire, dans le cadre de sa recherche.
C'est ce que vous appelez l'accompagnement sur mesure.
C'est l'accompagnement sur mesure, tout à fait. Et le troisième aspect de cet accompagnement, c'est la progression vers un but, et là on est dans du concret. C'est comment j'organise ma recherche, à qui j'envoie des lettres de motivation, comment je réponds à une offre d'emploi, etc., etc. Alors pour parler plus concrètement du type de prestations que nous offrons, il y a d'abord l'accompagnement individuel, à savoir que chaque chercheur d'emploi aura avec lui un conseiller qui, de manière extrêmement professionnelle, va travailler avec lui pour identifier ses motivations, pour identifier ses compétences, pour lui redonner confiance, pour le stimuler dans sa recherche, pour définir avec lui un plan d'action pour rechercher un job, un boulot, qui analyse avec lui la manière dont tout cela progresse, etc., etc. Ce que je voudrais souligner à ce stade, c'est que c'est toujours le chercheur d'emploi qui agit. Ça n'est jamais le conseiller qui fait à sa place, c'est toujours le chercheur qui fait, qui est sur le terrain, qui agit.
D'accord.
Deuxième aspect important, je crois, que c'est de cet accompagnement, c'est...
Il n'est pas seulement individuel, l'accompagnement.
Il n'est pas seulement individuel, il est également collectif. Ouais. Et là, nous avons tous les mercredis matins une réunion que nous appelons Troc-Idée.
Ouais.
Je crois que c'est un vocable qui est bien apprécié, qui est assez connu au foyer, même au-delà du foyer. Troc-Idée, c'est un lieu collectif, donc, où tout le monde est accueilli sans aucune condition, sans aucun préalable.
Il y a deux choses qui résonnent derrière Troc-Idée. Il y a un échange.
Il y a un échange.
Il y a une notion de gratuité aussi.
Et il y a une notion de gratuité, absolument. Et c'est un lieu de libre parole, un lieu d'apport, de reconnaissance, un lieu de lien social. Je crois que c'est très important, parce que le chercheur d'emploi souvent est un peu seul chez lui et il trouve du lien social. Et je crois même pouvoir dire, mais ça ce sont les participants qui le confirmeront, que c'est parfois aussi un lieu où se créent des relations amicales entre les gens. Donc c'est un lieu extrêmement vivant et où les gens aiment à revenir, même lorsqu'ils ont retrouvé du travail, quand ils ont parfois un petit moment de libre, ils reviennent.
Il y a d'autres effectivement façons d'accompagner le chercheur d'emploi. Je tiens à signaler à nos auditeurs qu'il y a un site de Parcours vers l'emploi qui existe et qu'il faut aller consulter. Hein. Catherine, l'adresse du site, c'est
parcoursversl'emploi.org. Tout attaché.
Parcoursversl'emploi.org, ce qui permet d'aller voir effectivement un certain nombre des ateliers de Parcours vers l'emploi. Et on ne va pas pouvoir tout dire aujourd'hui, donc on incite beaucoup nos auditeurs à aller visiter avec profit ce site. Je vous propose, Michel, de nous donner quelques chiffres peut-être sur l'activité de Parcours vers l'emploi. Est-ce que vous pouvez...
Quelques chiffres. En 2015, nous avons reçu au total 170 personnes pour 340 entretiens. Ces 170 personnes concernaient évidemment toutes les activités, les entretiens individuels, les réunions de groupe dont je parlais, également les ateliers d'anglais, de bureautique ou de web, de création de sites web ou même de libre service informatique qui est mis à la disposition des chercheurs d'emploi. Je peux vous dire que 80 personnes ont suivi la bureautique, 34 personnes ont suivi des cours d'anglais.
D'accord.
Voilà quelques ordres de grandeur.
Merci Michel. Catherine Rapp, si l'on vous demande de résumer la philosophie de Parcours vers l'emploi en deux mots, quels sont-ils ?
Remettre la personne debout, en route, en action, c'est ce que l'on nomme... Oui, j'ai plus de mots, hein, là. C'est le pouvoir d'agir, c'est
oui,
ça
exactement.
Que j'emploie.
C'est un peu votre slogan.
Mais c'est tellement entendu partout que je préfère mettre les gens en mouvement.
D'accord.
Redonner cette capacité à faire.
Alors, nous allons nous autoriser une première pause musicale que je vous laisse découvrir. Ils nous la commenteront après.
En l'air, lancé en l'air, je sais gober une cacahuète lancée en l'air. Je sais siffler dans mes doigts, j'imite à la perfection le cri du putois. Le cri du putois, le cri du putois. Je remue les narines et je remue les oreilles, et je ramasse un crayon avec mes orteils. Je sais faire une marionnette avec ma serviette, faire semblant de vous casser un œuf sur la tête. Un œuf sur la tête, un œuf sur la tête. Le stem, je sais faire le stem. Je sais faire le stem, ce n'est pas un problème. Je parle le javanais. Je parle nouchépé, mais je parle javanais. Le javanais. Et au baby-foot, je fais les moulinets, les balayages et les lobes, les tirés, les poussés, les croisés, les cuillères, les triplettes, et le temps, les roulettes, les sandales, les cassettes. Et je vais à la pêche avec les poignets en poire ou les poignets en quenelle. Il est temps, mon pouvoir, de réussir un tunnel, de marquer de l'arrière, de marquer du gardien, et en tapant du poing, de réussir le coup de la grand-mère. Je fais les ronds de fumée, les ronds de fumée, j'ai appris ça à l'armée. Je fais, bien entendu, je fais le cochon pendu, le cochon pendu, cochon pendu. Fais tourner mon stylo autour de mon pouce et claquer ma joue avec un doigt dans la bouche. À la guitare je sais jouer les jeux interdits. Je connais 36 façons de refaire un lit. en portefeuille, en cathédrale. Je sais souffler dans mes mains pour faire le hibou. En ombre chinoise, je fais la chair et le loup. Je peux faire entrer tous mes orteils dans ma bouche. Et je suis capable de fumer sous la douche. Avec ma langue, je fais un trèfle à trois feuilles. Je me lèche le coude et je sais loucher d'un œil. Avec un élastique, je fais la tour Eiffel. Et le berceau du char, au ricochet, je suis un professionnel. Voilà quel est mon bagage. Voilà tout mon bagage, alors quand est-ce qu'on m'engage? Voilà mes connaissances. Voilà mes compétences, alors quand est-ce que je commence? Quand est-ce que je commence? Quand est-ce que je commence?
Alors, Catherine, pourquoi avoir choisi ce disque?
L'humour, ça existe, même dans notre accompagnement entre idées et autres. Et puis, n'est-ce pas ce qu'on demande aux chercheurs d'emploi, d'être multifonctionnels, plein, bourrés de compétences et non embauchés au final. Donc, je trouvais ça un petit...
C'est de l'humour noir, ça.
C'est de l'humour tout court. Non, on utilise... ça me permet de prendre le recul, beaucoup de recul, l'humour. Donc, c'est bien vrai. De temps en temps d'en
ça,
jouer.
Ça fait beaucoup de bien. Et Catherine et Michel, est-ce que vous pourriez nous présenter quelques exemples d'accompagnement récents à Parcours vers l'emploi? Catherine, je vous passe la parole.
Moi, j'ai envie de regrouper en fait en un seul exemple plusieurs personnes que j'ai en tête qui sont des personnes issues de l'immigration notamment et qui arrivent toujours en France avec l'idée qu'ils viennent de naître en France, c'est-à-dire qu'elles ont 25, 30 ou 50 ans et ils ont un CV où il n'y a rien qui marque leur parcours précédent dans leur pays d'origine. Et du coup, je crois que je travaille très souvent, on dirait à la personne, mais qu'est-ce que vous avez fait avant? Vous n'êtes pas juste de naître. Et ce travail-là permet de faire ressortir tout un tas de savoirs et de véritables belles compétences de toutes ces personnes qui ont eu des vies dans leur pays d'origine. Et comme je dis souvent, c'est pas parce que la personne s'exprime mal en français qu'elle ne sait pas tenir un bébé à l'endroit. Alors oui. qu'on lui demande d'être jeune diplômé en France. Ou pourquoi toutes les personnes qui sont un peu de couleur foncée, on leur propose d'être agent de sécurité? Il y a d'autres métiers qu'elles ont peut-être déjà exercés dans leur pays, et sur lesquels, on peut s'appuyer pour repartir, puisque c'est toujours la méthodologie de la recherche-action, c'est-à-dire la remise en route de la personne à partir de ce qu'elle sait faire, de là où elle est, ce qu'elle a vécu, pour aller de l'avant. Donc ça, pour moi, c'est un ensemble de succès qui marche presque à tous les coups. Quand la personne repart avec un CV, où il y a toute sa vie qui est visible avant son arrivée en France. Ça fait du bien et on voit le sourire et c'est un super résultat. Sourire et la personne qui est contente. Et ça, je peux même le dire aussi. Donc, tu as demandé plusieurs succès. Tu en veux plusieurs maintenant ou on échange avec monsieur.
Comme vous voulez, l'un et l'autre, vous pouvez parfaitement intercaler des exemples vécus, positifs ou plus difficiles. Michel.
Moi, je veux bien évoquer le cas d'une personne qui a connu de longues années de difficultés, puisque son dernier travail stable remonte à plus de 6-7 ans. Elle a connu ces années sans travail difficiles, avec des expériences personnelles, professionnelles qui l'ont profondément marqué, profondément blessé et qui n'ont jamais, pour ce qui concerne en tous les cas les tentatives de retravailler, n'ont jamais débouché sur un travail stable. Donc une personne un peu perdue, il faut bien le dire, en interrogation, avec quelques idées sur ce qu'elle voulait faire, mais au fond assez vague et qui se réduisait finalement à peu de mots, qui avait une consistance qui restait à définir, si je puis dire.
Oui.
Donc le travail a été progressif avec cette personne. Il a fallu installer d'abord la confiance, une reconnaissance réciproque. Bon, ça s'est fait, je crois, assez rapidement. Et puis, le travail a consisté avec cette personne à l'amener progressivement à nommer ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait vécu de douloureux dans, dans ses expériences professionnelles, qui l'avait amené à la rupture, ce qu'elle avait vécu aussi durant ses années difficiles, de manière à porter sur son vécu un regard le plus objectif, le plus lucide possible, et surtout donc à pouvoir nommer les choses. On y est arrivé, et à partir de là, l'idée de travail a consisté à l'amener également à nommer ce qu'elle estimait être ses qualités, ce qu'elle estimait être également ses points améliorés, ce qu'elle estimait être ses réussites dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle, de manière à reconstruire une confiance en elle et une assurance qui lui permette de reprendre des contacts pour retrouver un job. Et finalement, elle a construit, cette personne a construit un projet professionnel nouveau, assez différent, mais avec des éléments quand même de liens sérieux, solides, assez différent de ce qu'elle avait fait jusqu'à présent, mais un projet dans lequel elle se reconnaît parce qu'elle y a mis sa motivation, elle y a mis ses goûts de loisirs, et c'est un projet dans lequel elle se reconnaît, je crois, pleinement aujourd'hui, et qu'elle est en train de mettre en œuvre. Donc c'est un travail qui, j'ai envie de dire, nécessite nécessairement un peu de temps. C'est pas le genre de choses qui peuvent se faire en deux, trois séances. Il faut quelques mois de travail. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de doute. Et finalement, avec cette personne, elle est arrivée à formuler quelque chose. Et elle a un projet qu'elle poursuit aujourd'hui courageusement.
Bien. Et est-ce qu'il y a un autre exemple assez différent?
Je continue, Catherine.
Oui, on a un petit peu de temps.
Je te rends la parole.
Vas-y, je prendrai après. Pas de
soucis. Alors, le deuxième exemple auquel je pense, c'est un exemple un peu plus classique. D'accompagnement classique, je veux dire par là que c'est une personne qui souhaitait quitter son emploi précédent dans lequel elle ne se reconnaissait plus, qui ne lui apportait plus la motivation, la satisfaction qu'elle en est en droit d'attendre, et donc est venue nous voir alors même qu'elle était encore en poste, pour nous demander de l'accompagner dans sa réflexion et dans l'élaboration de ce projet de réorientation. Donc là, on a fait un travail assez classique de cabinet d'outplacement, comme on dit sur la place de Paris.
Quel drôle de mot.
Quel drôle de mot, n'est-ce pas? Mais enfin, les anglicismes aujourd'hui envahissent le terrain. Et même au Faye Grenelle, on les utilise de temps en temps. Donc il s'agit d'accompagner des personnes qui sont justement en situation de repositionnement professionnel et de les aider à se positionner sur le marché du travail en fonction de leurs nouvelles aspirations. Donc avec cette personne, le travail était assez classique, comme on en fait dans ces cabinets que je viens d'évoquer. Oui. Bilan personnel, bilan professionnel, élaboration d'un projet, d'une cible, et mise en œuvre de cette cible avec lettre de motivation, débriefing d'entretien de recrutement, analyse de la manière dont ça s'est passé, etc. etc. L'intérêt dans ce cas particulier a été de faire apparaître au fur et à mesure du travail avec cette personne des motivations qui existaient mais qui n'étaient pas véritablement formulées, conscientes chez la personne et qui sont apparues de manière assez claire, assez nette au fur et à mesure qu'on travaillait ensemble. C'est une personne qui attache énormément d'importance au sens de son métier, à l'utilité de son métier dans le cadre de la société, très attaché aux aspects économie sociale et solidaire, etc., et qui a retrouvé justement dans cet univers quelque chose qui a un sens très, très fort, et qui en même temps dans ce travail peut exprimer des motivations, des besoins psychologiques personnels qui sont parfaitement légitimes mais qu'il avait du mal à satisfaire dans son précédent job.
D'accord.
Voilà, mais je ne vais pas monopoliser la parole et je vais laisser Catherine reprendre le fil de ses exemples à elle.
Ben, mes exemples à moi, j'ai un peu tendance encore à globaliser, parce que c'est tout notre travail en général avec toute personne, c'est d'arriver à obtenir une adéquation entre les aspirations de la personne et les attentes du marché. Et très souvent, ça m'arrive vraiment très souvent, on a des personnes qui cherchent un emploi alimentaire et de ce fait se trouvent dévalorisées par faire quelque chose qui ne les inspire pas beaucoup par rapport à d'autres métiers qu'ils peuvent avoir, des passions. Beaucoup de gens veulent du sens dans leur travail, qui ont des compétences qu'ils ne peuvent plus exploiter. Et le fait de trouver et de chercher un emploi alimentaire, quand on fait d'abord un travail avec la personne pour la remettre, la revaloriser par rapport à ce qu'elle est, elle n'est pas l'emploi alimentaire, elle est autre chose. Mmh. Et du coup, ça lui permettra elle a une véritable identité professionnelle. Même si la motivation d'aujourd'hui, c'est de manger, c'est de travailler quand même pour subvenir à ses besoins et de prendre ce qu'on appelle cet emploi. Et du coup, on a là aussi beaucoup de résultats, parce que la personne, elle va aller vers des emplois peut-être moins valorisants que ce qu'elle aimerait, mais en même temps, elle garde son identité. C'est valable pour beaucoup de personnes qui sont dans la création.
Ah oui.
Beaucoup, beaucoup d'auteurs, de peintres,
métiers d'art.
Oui. On ne peut pas dire qu'il y ait des débouchés immédiats. Mm-hmm. Mais par contre, leur permettre de continuer à écrire ou à peindre et en même temps d'aller sur un emploi qui leur donne encore cette disponibilité de temps pour le faire. On a tout un tas de réussites dans ce domaine-là. Enfin, beaucoup, je trouve. Et après, ça va dépendre. On a du temps. C'est aussi un peu ce qui nous distingue des associations court-termistes qui ont besoin du résultat immédiat. Nous, on a un peu de temps pour faire un travail approfondi avec les gens. Et ça donne des résultats assez émouvants.
C'est tout à fait positif ce que vous dites là. Et je crois quand même qu'il y a des cas un peu plus difficiles. Michel, vous vouliez peut-être parler de personnes qui ont du mal à trouver leur voie et expliquer pourquoi ça se passe comme ça.
Si on essaye de comprendre pourquoi ça peut parfois être difficile d'accompagner des personnes et de leur permettre d'aboutir dans leurs recherches, j'ai l'impression que souvent le problème réside dans le fait que l'état des lieux initial était insuffisamment ou imprécisément établi. C'est-à-dire que tout accompagnement individuel commence nécessairement par une compréhension de la situation de la personne qui cherche un emploi, de ses intentions, de ses souhaits, des raisons qui font qu'elle est dans la situation où elle se trouve. Et il y a parfois des choses qui ne sont pas dites ou qui sont dites d'une certaine manière ou mal comprises ou parfois nous voulons peut-être trop vite entrer dans le vif du sujet et aller trop vite en besogne pour l'aider à retrouver du boulot. Et ça, c'est ce genre de choses souvent nous rattrape en cours de route. Et finalement, on croit à gagner du temps au début, mais on finit par en perdre en bout de course. Donc, ce point, ce diagnostic initial, ce contrat initial, parce qu'il s'agit vraiment d'un contrat entre le chercheur d'emploi et nous, il est important de bien l'établir et de l'établir sur tous ces aspects. Il y a peut-être un deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que nous ne sommes pas là pour faire à la place, nous ne sommes pas là pour conseiller, nous sommes là pour inciter à faire, pour que les gens prennent conscience de ce qu'il convient de faire, mais pas de faire à leur place. Et parfois, ils ont un peu de mal à accepter cet aspect-là des choses.
Écoutez, c'est une conclusion provisoire à ces portraits que vous avez dressés l'un et l'autre. Je vous propose d'écouter une deuxième pause musicale et nous pourrons continuer encore l'entretien après cette pause musicale.
Little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry.
be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
I'm not worried.
Alors, je pense qu'on peut consacrer le dernier tiers de cette émission à une espèce de mise en question du marché du travail, enfin du moins tel que nous le ressentons aujourd'hui, avec ces grands traits, hein, dont on parle un peu partout. L'approche du travail et de l'emploi chez les jeunes générations, par exemple, qui vivent cette approche très différemment de celle que nous avons vécue, notre génération, les générations d'avant. Avec cette caricature qu'ils rentrent sur le marché du travail avec des stages, de façon non contractuelle, très peu contractualisée, l'entrée tardive dans l'entreprise, et puis la dépréciation précoce, de plus en plus précoce, des gens qui travaillent. D'une part, ça c'est un des premiers points que je voudrais souligner. Le deuxième, c'est un peu le miroir aux alouettes qui représentent les start-up aujourd'hui, où chacun pense pouvoir créer une entreprise et son emploi. Et à l'autre extrême, ces majors du numérique qui sont en train de remodeler le travail de façon, avec beaucoup de charme dans le style, dans la façon dont on travaille et dans le fond extrêmement dur dans l'attente vis-à-vis des salariés. Voilà, j'aimerais juste vous livrer ces deux réflexions et puis vous laisser rebondir par rapport à votre mission au sein de Parcours vers l'emploi.
Oui, effectivement, c'est une des difficultés qui est proposée aux personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, le job dans la même entreprise pendant 20 à 30 ans, c'est fini. On met en avant, comme tu disais, les start-up, la capacité d'entreprendre. Et tout le monde n'est pas capable d'entreprendre. Il y a des gens qui ont besoin d'être encadrés, d'être soutenus par d'autres dans une équipe, et non pas d'être toujours la personne mise en avant. Et c'est vrai que ces gens-là, on est face à la fragilité, face à la disparition de la stabilité professionnelle. Et c'est là-dessus qu'on va travailler avec les personnes pour leur redonner une certaine forme de confiance, Parce que, comme j'ai envie de dire, on s'occupe des chômeurs et pas du marché de l'emploi. Donc nous, on travaille sur la personne. On leur apporte une revalorisation de ce qu'elles sont dans leur globalité pour pouvoir reprendre de la nourriture pour aller de l'avant et toujours être capable d'aller vers la mobilité, d'être adaptable, de changer. C'est la conduite du changement en permanence, la vie. Hein. C'est beaucoup plus global que la vie professionnelle.
Michel, est-ce que ça vous inspire des réflexions identiques ou différentes ?
Oui, je ne sais pas si elles sont identiques ou différentes. J'ai envie de rebondir sur un mot qu'a prononcé Catherine, c'est capable de créer une start-up. Je crois que je ne me serais pas exprimé exactement de la même manière parce que pour moi, ce n'est pas une question d'être capable, c'est une question d'en avoir envie. Ce n'est pas exactement la même chose. Je crois que nous avons tous, chacun d'entre nous, un tempérament qui est le sien, qui lui est propre, qui est singulier, et il nous appartient de choisir nos voies en fonction de ses envies, en fonction de nos envies, en fonction de notre tempérament, en fonction de notre objectif. Si certaines personnes ont envie de créer une start-up, tant mieux pour elles, mais il y a sur le marché du travail des jobs tout aussi honorables, tout aussi gratifiants, tout aussi satisfaisants pour des personnes qui ont envie d'analyser, qui ont envie de créer, qui ont envie d'autre chose qu'une entreprise, etc. etc. Donc c'est sûr qu'on parle beaucoup de start-up, mais c'est certainement pas une panacée et c'est certainement pas un objectif qui doit s'imposer à tout le monde. Je crois que l'enjeu du marché du travail aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout de comprendre ce dont on a envie, de comprendre quels sont ses points forts, de comprendre quelles sont les choses qui vous font avancer et de choisir sa voie en fonction de tout ça. Je crois que c'est ça l'élément. Alors, c'est sûr que le marché aujourd'hui est dur. Ça date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, ça date de presque 30 ans aujourd'hui. Mais c'est en prenant conscience de ses forces qu'on peut, je crois, évoluer dans cet univers.
Oui, il y a aussi cette notion de déculpabiliser les chercheurs d'emploi en période de chômage. Je crois que c'est un des combats quotidiens de votre
Bien sûr, c'est qui aujourd'hui n'a pas un parcours avec des trous. Oui. Et la pauvre personne qui arrive, non, qu'est-ce que je dois mettre et qu'est-ce que je dois dire pour combler mes trous ? C'est l'apanage de tout à chacun. Et c'est tellement devenu entrer dans les mœurs, c'est qu'il y a même des mesures qui sont mises en place par le gouvernement, comme le compte personnel d'activité qui reprend un peu ces périodes de vide pour les intégrer dans un parcours professionnel. Donc ça devient banal.
Oui, on a quand même du mal à mettre en place ces nouvelles mesures.
Bien sûr, mais ça veut dire que c'est rentré quand même dans les mentalités, c'est qu'il n'y a plus de parcours linéaire.
Et puis la conscience de un mot que je n'aime pas beaucoup, l'employabilité.
On ne l'a pas employé, nous. Hein.
Oui,
pas encore.
On n'a pas dit. Hein.
Mais
c'est plutôt une adéquation. Moi, j'aime bien le mot adéquation. C'est toujours entre ce que j'ai envie, ce que je veux, ce que je sais faire et le marché. Il y a quand même ce marché des besoins. Il ne faut pas les nier. Hein. On ne peut pas dire « je vais être astronaute ». S'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Donc, il faut quand même trouver une adéquation entre ce que je sais faire et ce dont on a besoin dans les entreprises.
Moi, je voudrais revenir deux minutes sur les interruptions de travail dans un CV. C'est vrai que ce terme de trou, il est souvent employé. Je crois qu'il faut vraiment arriver à en employer d'autres parce que d'abord, c'est pas un trou, c'est un intervalle, une parenthèse. Voilà, et surtout, c'est commun à quasiment tout le monde aujourd'hui. Rares sont les personnes qui n'ont pas connu des périodes pendant lesquelles, pendant 15 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, elles se sont cherchées, elles ont cherché un job, elles ont cherché une reconversion. Donc, c'est devenu quelque chose, au fond, assez banal, qui certes ne doit pas être accepté en tant que tel, mais en tous les cas, qui est largement partagé. Donc, pas de complexe à avoir, voilà. Alors, en même temps, c'est quand même une période de rupture, c'est vrai, et cette rupture, il faut savoir la gérer. C'est un des points sur lequel on essaye de bien intervenir chez Parcours vers l'emploi, c'est-à-dire d'accompagner les personnes dans, lorsqu'elles font leur deuil de leur job passé, lorsqu'elles se reconstruisent progressivement après, après cette, ce deuil. Et donc, les différentes étapes de cette émotion qui doivent nécessairement se faire l'une après l'autre, nous essayons aussi de veiller à ce qu'elles se déroulent le plus normalement possible et qu'elles aboutissent à un nouveau départ pour les personnes que nous avons en face de nous.
Et la représentante de Génération Précaire qui disait qu'elle, combien le marché du travail était fermé au départ, disait aussi que cette génération est bien mieux préparée que nous l'étions à changer de travail plusieurs fois. Elle a déjà fait, je crois, une trentaine d'entreprises à 30 ans. Donc ça les prépare. Je crois que vous disiez, Michel ou Catherine, que rester dans une même entreprise 20 à 30 ans, c'est fini. Je crois que ça fait un moment.
Mais
maintenant, ça s'accélère.
Et c'est vrai que ça développe d'autres capacités pour ces personnes qui sont dans la mobilité et plus de capacités peut-être à faire des choix. Oui. Être forte de leur propre choix, de savoir, ça renvoie toujours à soi, hein, la complexité de ce marché du travail. Mais ce qui est important, moi je fais souvent un travail d'autobiographie raisonnée avec les personnes, c'est-à-dire à partir de leur expérience, de leur vécu. Donc plus il y a une multiplicité de tâches et d'expériences, plus on arrive à obtenir un savoir. Mais du coup, qui suis-je et qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je veux faire maintenant? Donc on leur donne quand même ces outils-là, parce que je reviens, nous on s'occupe de la personne, c'est pas nous qui allons créer des emplois.
On revient un instant sur un de vos ateliers, je crois que Troc-idée. C'est pas éthique, c'est pas
mais
trop,
c'est bien, ça peut aller
pas
aussi.
Mais Troc-idée est un exercice qui permet à chacun de confronter ses demandes et justement de faire... peut-être mûrir les possibilités de rebondir.
De pouvoir agir, puisque justement, là, il y a une présentation face à un groupe, et le groupe travaille entre pairs, P-A-I-R-S évidemment, et permet d'aller ensemble et de se rendre compte que celui qui a cette difficulté-là ou cette richesse-là peut la partager avec d'autres, et c'est tout à fait l'effet miroir des activités en collectif. Et ça, c'est une richesse effectivement très importante dans nos supports d'activité.
Michel, un dernier mot.
C'est sûr que l'effet Troc-idée est un effet assez impressionnant sur les personnes qui participent, parce qu'elles sortent de leur solitude, dans laquelle effectivement l'absence de travail les renvoie malheureusement assez brutalement. Et donc elles retrouvent du lien social, elles retrouvent une problématique commune avec les personnes qui sont là, et c'est une manière justement de gérer ce processus de deuil dont je parlais tout à l'heure, et de repartir vers un nouvel emploi, une nouvelle conquête d'emploi, etc.
Avant que nous nous quittions, je voudrais dire encore que vous exercez cette parcours vers l'emploi au foyer de Grenelle, et que vous pouvez...
Dans le 15e arrondissement de Paris.
Dans le 15e arrondissement de Paris, et qu'on peut aller voir le site...
Parcours vers l'emploi.
Point org. Voilà, parcours vers l'emploi.org.
Et vous serez bien accueillis, puisque nous vous mettons en avant l'accueil inconditionnel. Donc venez nombreux.
Merci beaucoup Catherine Rapp et Michel Spess pour ce moment partagé.
Merci
à vous.